vous avoir parmi nous. Je pense qu'il y a même quelques-uns qui sont ici pour la première fois. Soyez le bienvenu. Et espérons aussi que par l'étude de la parole de Dieu, nous soyons tous non seulement nourris de la parole, mais que nous soyons fortifiés et que nous soyons animés à vouloir nous soumettre entièrement à la parole de Dieu. Nous avons passé une très belle journée aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les journées que nous avons passées ici en Suisse depuis lundi ont été merveilleuses. Et nous remercions Dieu que nous avons choisi d'ailleurs cette saison pour venir dans ce pays. Les cieux ont été ensoleillés. Les arbres sont en couleur. Et puis, les sites dans votre ville sont aussi les plus intéressants. Donc, espérons que ce soir, après avoir passé une si belle journée, nous allons être aussi rendus joyeux par la parole de Dieu. Voulez-vous faire une prière avec moi? Notre Père Céleste, nous te remercions pour toute la beauté de ta création. Te remercions, Père, pour ton amour qui se manifeste de maintes façons à notre égard, pour la santé et pour la possibilité de sortir par cette soirée. C'est agréable pour nous réunir en cet endroit, pour l'étude de ta parole et pour chanter ces louanges que nous venons de lever vers toi et aussi, Père, d'avoir la joie de nous revoir et de nous entretenir ensemble autour de ta parole. Bénis donc ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, afin que tout se passe, Père, pour ta gloire et pour le bien de chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Voilà la troisième soirée que nous parlons des sujets qui sont très importants, des sujets qui touchent vraiment aux choses les plus essentielles de notre existence. D'abord, l'homme pécheur, l'homme perdu, l'homme condamné, est sauvé par la grâce de Dieu, et uniquement par la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme n'a rien à faire. Il doit recevoir cette grâce. Il doit témoigner sa foi en Dieu. Et il fait ce témoignage par l'obéissance à la parole de Dieu. Par le repentir, par le baptême, il s'intègre dans la famille de Dieu. Il devient une nouvelle créature, un enfant de Dieu, en obéissant à l'Évangile. Et cela est essentiel. C'est d'ailleurs primordial, parce que si on ne fait pas cela, le reste est presque inutile. Donc nous devons penser d'abord à notre salut. Nous devons penser à ce que nous devons faire pour être justifiés, pour être en règle devant Dieu. Hier soir, nous avons parlé de la sanctification par l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Car si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui doit se faire à partir du moment où nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Le baptême nous introduit en Christ, mais le Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, veut œuvrer en nous pour nous faire devenir de plus en plus comme Dieu lui-même. Car Dieu est saint, et nous devons être saints dans toute notre conduite, afin que nous soyons les enfants de Dieu qui vivent en règle avec Dieu et qui glorifient le Seigneur en toutes choses. Donc nous avons parlé de cela hier soir. Et ce soir, je voudrais continuer ces études en parlant de l'espérance, car le chrétien, celui qui a obéi au Seigneur et qui est devenu un enfant de Dieu, il est soutenu dans tous les combats de la vie, dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves, il est soutenu par l'espérance qu'il a de vivre un jour avec Dieu. La vie sur cette terre, en général, est souvent difficile. Elle est parsemée de toutes sortes d'échecs, de désappointements, de pièges. La vie chrétienne même est surtout sujet à ces épreuves. Il y a, dans le langage de Paul, luttes en dehors et craintes au-dedans. Nous avons à faire face donc à de grandes difficultés dans la vie chrétienne. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans un jardin rose. Il nous a appelés à le suivre, quitte à souffrir pour lui, quitte à être bafoué pour lui, quitte à subir toutes sortes d'épreuves pour son nom. Donc Jésus nous appelle à porter une croix. Mais il nous donne aussi la possibilité, à travers toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, d'être soutenus par les promesses de Dieu, par l'espérance qu'il nous a accordée en son Fils. Et nous savons que la récompense, à la fin, sera uniquement à ceux qui persistent jusqu'au bout, qui sont vainqueurs. Dans l'Apocalypse, Jésus a adressé aux sept églises d'Asie des lettres pour les exhorter, pour les louer pour certaines choses qu'il trouvait chez elles, mais aussi pour leur donner une exhortation de persévérer. Il savait que ces églises allaient bientôt passer par de grandes persécutions, beaucoup d'épreuves. Et voici comment il s'adresse à ces églises. Chapitre 2, verset 7. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est au vainqueur que cela a été promis. Sois fidèle, dit-il dans la lettre suivante. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Et puis à l'église suivante, à l'église de Pergame, il dit, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. À l'église de Thyatire, Jésus leur dit, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations et je lui donnerai les poils du matin. Je ne m'arrête pas pour expliquer tout cela, d'ailleurs nous ne sommes peut-être pas savoir exactement tout ce que Jésus voulait dire, mais nous savons que ce sont des promesses qui sont accordées uniquement à ceux qui sont vainqueurs, à l'église de Sardes. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. À l'église de Philadelphie, une église très fidèle, Jésus dit, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Père et celui de la ville de mon Père, de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Et puis à l'église de Laodicée, Jésus donne la dernière exhortation en disant, au chapitre 3, verset 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc, le vainqueur est celui qui sera béni par Dieu et qui aura la joie de vivre avec le Seigneur Jésus dans l'éternité. Tout cela est très important pour nous, chrétiens. Cette espérance que nous avons en Jésus veut dire qu'un jour, notre corps mortel qui rentrera dans la poussière après la mort sera ressuscité à l'immortalité. Et nous aurons donc là un corps spirituel, un corps céleste, un corps immortel. Cette espérance comprend aussi l'attente de la venue de Jésus, notre Seigneur, la glorieuse apparition de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Cela sera aussi une partie de cette espérance que Dieu nous donne. Et nous l'attendons avec joie. Nous aimons l'avènement de Jésus, comme dit l'apôtre Paul en 2 Timothée, chapitre 4, au verset 8. Il dit que la couronne de vie est promise à tous ceux qui aiment son avènement. J'aime bien votre pays. J'ai été émerveillé par ses beautés. Mais je dois vous dire que je suis dans l'attente de quelque chose encore plus glorieux, de quelque chose encore plus splendide que ce que j'ai vu aujourd'hui dans la Suisse, aussi belle qu'elle soit. Donc, nous avons cette attente d'une vie éternelle auprès de Dieu. Nous avons l'attente du paradis céleste où il y aura la splendeur, la gloire et la félicité absolue. Donc, nous attendons cela avec espérance. C'est ce qui nous soutient dans les combats de notre vie ici-bas. L'étudiant ou l'étudiante qui va à l'université doit parfois bloquer, travailler, étudier, traîner. Mais tout cela parce qu'il a un espoir qu'un jour il recevra son diplôme, il sera licencié, il aura son brevet après avoir fait toutes ses études, peut-être pendant des années. C'est l'espoir qui le soutient à travers tous ses travaux et toutes ses études. Le fermier qui laboure son terre dans le printemps, qui le cultive, qui sème, qui cultive et qui travaille très dur pendant toute la saison, le fait avec l'espoir qu'à la fin de la saison, il aura une récolte. Et de la même façon, nous, chrétiens, nous continuons à suivre le Seigneur, à lui être obéissants, même en dépit de toutes les tribulations qui pourraient surgir sur notre vie, même en dépit des épreuves et des souffrances par lesquelles nous pourrions passer. Nous restons fidèles au Seigneur, car nous croyons fermement qu'un jour, il y aura un terme à ces souffrances, à ces épreuves, et que nous aurons avec Dieu la gloire et la félicité éternelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul appelle l'espérance le casque du salut. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 8, il parle de l'espérance, le salut éternel. Parce que l'espérance est ce qui nous protège au milieu des conflits de la vie ici-bas. Tout comme le soldat, à l'époque de Paul surtout, qui portait un casque pour protéger la tête au milieu des batailles et des combats. Ainsi, nous avons un casque qui est notre salut, qui est la promesse du salut éternel. En Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul parle des armes avec lesquelles nous devons nous vêtir et que nous devons être bien préparés pour le combat de la vie. Mais il parle en parmi autres du casque du salut, car ce casque, c'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et l'écrivain aux Hébreux parle de notre salut ou de notre espérance comme étant l'encre de notre âme. Hébreux chapitre 6 et les versets 19 et 20. Il dit que nous avons cette espérance comme une encre de l'âme qui nous attache, qui pénètre jusqu'au-delà de la voile. Il parle ici du ciel, que l'espérance est l'encre qui nous amarre, pour ainsi dire, aux rives éternelles et qui nous empêche d'aller à la dérive et d'abandonner notre confiance en Jésus-Christ. Nous savons que cette espérance, bien sûr, a sa source dans la foi. En Hébreux chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses que nous espérons. Et c'est aussi l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Donc l'espérance provient de la foi que nous avons en Dieu, dans les promesses de Dieu. Car en réalité, nous n'aurions aucune espérance si nous n'avions pas les promesses. C'est Dieu qui nous a promis et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. Nous savons que la parole de Dieu est inébranlable, immuable, comme nous lisons dans le 6e chapitre aux Hébreux. Dieu a fait une promesse, par exemple, à Abraham. Et quand il a fait cette promesse à Abraham, quand lui et en sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies, il a fait cette promesse avec un serment. On ne fait pas un serment, n'est-ce pas, à moins que ce soit grave, que ce soit sérieux. Mais Dieu a fait la promesse avec un serment. Mais on fait un serment, n'est-ce pas, par celui ou ceux qui est au-dessus de soi. Mais Dieu ne pouvait pas faire le serment qu'il a fait. Il ne pouvait pas faire cette promesse en prenant comme témoin un plus grand que lui. Donc il a fait le serment en invoquant son propre nom. Et de cette façon-là, l'épistolier nous dit que par deux choses immuables, par la promesse de Dieu et par le serment de Dieu, nous avons la certitude que Dieu accomplira sa promesse, car il est impossible que Dieu mente. Donc notre espérance se base sur les promesses que Dieu a faites. Prenons le cas d'Abraham. Dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre parle des promesses que Dieu a faites à Abraham. Il lui a promis, par exemple, qu'il deviendrait une grande nation, qu'il lui donnerait un fils, et par ce fils, il aurait une descendance innombrable. Il lui a promis de lui donner la terre que nous connaissons aujourd'hui comme la Palestine, la terre promise, le Canaan. Il lui a promis cela, et quand lui et en sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Or, Abraham a cru aux promesses de Dieu. Et il a cru à tel point qu'il a obéi aux ordres de Dieu jusqu'à quitter son pays natal, le pays des Chaldéens, pour s'en aller dans un pays qu'il n'avait jamais vu. Il ne savait même pas où il allait. Et il a obéi à Dieu au point qu'il est demeuré dans ce pays, vivant sous des tentes, comme celui qui campe, si vous voulez, comme un étranger, comme un bédouin dans ce pays pendant 100 ans et qu'il est mort même avant d'avoir reçu entièrement ce que Dieu lui avait promis. Mais il n'a jamais douté de la promesse de Dieu parce qu'il croyait que Dieu accomplirait sa parole. Donc il n'est pas étonnant que nous lisons dans le verset 10 de ce chapitre qu'Abraham cherchait une ville qui avait des fondements dans Dieu et lui-même le fondateur et l'architecte. Abraham a mis sa confiance en Dieu et il n'a jamais désespéré. En ce qui concerne la naissance de son enfant, qui n'était pas encore venu alors qu'il avait déjà 99 ans, l'enfant n'était pas encore né, sa femme avait 89 ans. Mais il a espéré contre toute espérance parce qu'il croyait aux promesses que Dieu lui avait faites. Et au sujet d'Abraham, Isaac et Jacob, les co-héritiers avec lui de cette promesse, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ne les ont pas réellement possédés de leur vivant, mais ils les voyaient et ils croyaient aux promesses de Dieu. Ils les voyaient et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et en réalité, ce que nous sommes, nous ne sommes que des voyageurs et des gens qui vivent temporairement sur cette terre. Mais nous croyons qu'un jour, nous aurons le pays céleste que Dieu nous a promis. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de la nostalgie de leur pays, de leur patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient pu retourner, ils avaient le temps de retourner dans le pays des Chaldéens. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Et notez bien, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de les appeler son peuple, car il a préparé une cité pour eux. Donc je vois que la promesse de Dieu est ce qui soutient notre espérance. Et notre espérance est ce qui nous soutient à travers toute attente et toute difficulté que nous pourrions rencontrer sur cette terre. Or, voyons ce que cette espérance peut faire pour nous si nous l'avons. Pas tout le monde qui a cette espérance, mais pour ceux qui ont cette espérance, quels sont les effets? Premièrement, elle nous soutient quand nous sommes tentés par les désirs de notre chair, par le monde qui nous entoure. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu et nous vivons non seulement pour le temps, mais surtout pour l'éternité. En 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » C'est ce que nous sommes si nous sommes chrétiens. Et nous le sommes, dit-il. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas de question si nous avons obéi à l'Évangile. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que nous le verrons tel qu'il est un jour. Nous le verrons dans toute sa gloire, tel qu'il est. Et celui qui a cette espérance en lui se purifie, comme il est lui-même pur. L'espérance nous aide donc à surmonter toutes les tentations de cette vie, à surmonter les pressions qui nous assaillent si souvent dans le monde qui nous entoure. C'est cela qui nous aide à ne pas nous éloigner de Dieu. C'est l'espérance qui nous garde et qui nous attache au Seigneur. Et l'espérance nous protège aussi et nous soutient dans les moments de souffrance, de douleur, car nous devons tous passer par cela, mais nous savons qu'il y aura un jour un terme à ces souffrances. Celui qui est dans un tunnel pourrait être découragé s'il ne voyait pas au loin un point de lumière. Et nous avons un point de lumière qui nous aide à travers toutes les souffrances de cette vie, que ce soit la maladie, que ce soit le désappointement, que ce soit le deuil, quelle que soit notre épreuve, l'espérance nous soutient à travers tout cela. C'est pour cela que l'écrivain aux Romains, chapitre 8, verset 18, dit, « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps actuel, du temps présent, et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il n'y a pas de comparaison. Ce que nous souffrons sur cette terre n'est qu'un pour un moment. Mais un jour, Dieu mettra fin à cela et nous aurons la félicité et la joie avec lui pour toute éternité. La Bible nous dit qu'en ce moment-là, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. N'est-ce pas merveilleux d'y songer et d'y croire? En 2 Corinthiens, chapitre 4, l'apôtre Paul, en écrivant à cette église, leur dit que si les choses que nous voyons autour de nous, que ces choses sont temporaires, notez ce qu'il dit dans le 4e chapitre de 2 Corinthiens à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit. Et cela se fait pour nous tous. J'ai déjà 90 ans. Je sais que, avec le temps, n'est-ce pas, ce corps mortel va disparaître. Même lorsque notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de joie et de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, savons que tout ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, même les merveilles de la nature, de ce monde, un jour disparaîtront. Donc ce sont des choses temporelles, des choses qui disparaîtront. Mais les choses invisibles, ce sont là les vraies réalités, et ces choses-là dureront pour l'éternité. Donc nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses visibles sont momentanées, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc l'espérance nous soutient à travers toutes les souffrances, toutes les maladies, quelles aussi graves soient-elles, toutes les douleurs que nous pourrions avoir sur cette terre. Et aussi, l'espérance nous soutient quand nous avons tendance à nous relâcher dans notre zèle pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Jésus nous dit que nous devons chercher Dieu, son royaume et sa justice, plus que toute autre chose dans la vie. Mais vous savez que parfois, on aurait peut-être tendance de se relâcher un petit peu et de se demander, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie que je dois chercher ou que je dois, dont je dois jouir? Mais Paul nous dit que si nous sommes maintenant parfois découragés ou parfois un peu là dans notre travail pour le Seigneur, que nous devons garder toujours un esprit que ce n'est pas en vain. Parfois, n'est-ce pas, on fait beaucoup d'efforts pour servir Dieu. On fait des sacrifices. On tâche d'amener d'autres à l'Évangile. Et on travaille, on paye beaucoup pour cela. Et on se demande, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Il y a si peu de monde qui s'y intéresse. Mais c'est l'espérance qui nous pousse à continuer, à manifester ce zèle pour Dieu, à travailler pour lui, même quand ce n'est pas toujours facile. En 1 Corinthiens chapitre 15, après avoir parlé de la résurrection de notre corps mortel pour l'immortalité, pour la vie céleste, il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas inutile. Même si nous ne voyons pas immédiatement le résultat, Dieu voit que nous sommes à l'œuvre pour semer sa parole. Dieu voit l'effort que nous faisons. Et c'est en raison de notre foi et de notre effort que Dieu nous bénira. Et notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Aussi, en écrivant aux Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul dit, au chapitre 6 plutôt, il dit au verset 9, « Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est l'espérance qui nous soutient dans l'œuvre de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous relâcher. Nous ne pouvons pas devenir indifférents, nonchalants, parce que nous avons une espérance qui va bien au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous pouvons constater dans cette vie. Et puis, l'espérance de Dieu nous soutient quand notre vie est cachée en Christ. L'apôtre Paul parle de cela aux Colossiens, n'est-ce pas? En Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, il dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et alors il dit que notre vie qui est cachée en Christ sera un jour manifestée lorsqu'il apparaîtra. Et nous avons cette espérance que même si le monde ne nous comprend pas parfois, même si nous sommes un peu méprisés par les gens qui sont autour de nous, soit au travail, soit à l'école, soit dans la rue, les gens savent que nous sommes chrétiens et nous pourrions parfois être méprisés par le monde, nous pourrions être même ridiculisés par le monde, notre vie est cachée, nous pourrions être même persécutés, comme il y en a beaucoup qui ont été persécutés pour la foi en Jésus. Quand nous soutenons à Lyon, nous avons vu la reine où en l'an 177, 22 000 chrétiens ont été mis à mort sans renoncer à leur foi. Et ainsi, nous pouvons savoir que dans la vie du chrétien, nous serons parfois mal compris et nous serons méprisés, nous serons ridiculisés. Mais Jésus nous dit en Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque tous les hommes vous outrageront, lorsqu'ils vous persécuteront, lorsqu'ils diront de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. » Qu'est-ce qui nous soutient à travers une vie qui est parfois méprisée par le monde, une vie cachée dans le monde? Eh bien, c'est l'espérance qui nous soutient. Et nous pouvons rester fidèles à notre Seigneur. Et comme les chrétiens dont l'apôtre Jean parle en Apocalypse chapitre 12, nous pourrions l'aimer et nous pourrions servir et nous pourrions même mourir, parce que notre amour pour lui est plus grand que l'amour de notre propre vie. Comme disait l'apôtre Paul, je suis prêt à mourir pour le Seigneur si je peux ainsi accomplir ma mission. Donc, il y a pour le chrétien une espérance qui est l'ancre de son âme, qui est le casque du salut, qui le soutient à travers tout dans la vie. Évidemment, l'espérance est en même temps un désir ardent et une attente certaine. Il faut les deux éléments pour qu'il y ait réellement l'espérance. Je crois que tous ceux qui ont, ne fût-ce qu'un grain de foi en Dieu, voudraient un jour aller au ciel. Ils ne voudraient pas ne pas y aller. Mais il est certain que tous ceux qui auraient ce désir n'y iront pas. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, et vous connaissez sûrement ce texte, « C'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car plusieurs viendront en ce jour-là me dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? De grandes œuvres en ton nom? Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc les portes du ciel seront fermées à ces gens-là. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Oui, ils auraient eu peut-être le désir d'aller au ciel, et ils seront déçus. Et quelle sera la déception si grande, alors que le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Donc, ce n'est pas tous ceux qui désirent aller au ciel qui iront au ciel. On peut désirer quelque chose sans réellement avoir l'attente de l'avoir ou de la posséder. Je pourrais désirer, par exemple, qu'un jour je serais héritier de quelques milliards de francs, mais je n'ai pas une attente de cela. Je ne peux pas dire donc que j'espère un jour recevoir cet héritage, parce que je n'ai aucune attente. Par contre, on peut attendre quelque chose sans réellement le désirer. Il y a une attente terrible de jugement pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, nous dit la parole de Dieu. Une attente terrible pour ceux qui abandonnent leur foi, d'après l'Épître aux Hébreux. Donc, on peut attendre quelque chose, mais on ne peut pas dire que on l'espère. Il faut non seulement le désir ardent, mais il faut aussi une attente certaine avant que ce soit réellement l'espérance dont nous parle la parole de Dieu. Or, l'attente de la vie éternelle, l'attente du ciel avec Dieu, est rendue possible uniquement par la foi et par l'obéissance à la parole de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, celui que Dieu a établi pour être le Sauveur du monde. C'est Jésus-Christ qui nous a ressuscités à cette espérance vivante par sa résurrection d'entre les morts. Comme dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » Voilà l'espérance que nous avons auprès de Dieu et qui vous est réservée dans les cieux, à vous qui êtes gardés dans la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus nous a régénérés pour une espérance vivante, pour cet héritage céleste. Or, nous devons écouter donc ce que Jésus a à nous dire. Et puis, c'est Jésus lui-même qui est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Romains chapitre 5 et à partir du verset 7. Lui qui, dans les jours de sa chair, a offert à Dieu des supplications avec cri, avec angoisse, et qui a été écouté à cause de sa piété, il est devenu, après avoir été élevé à la perfection, après sa mort et sa résurrection, il est devenu l'auteur d'un salut éternel à ceux qui lui obéissent. Ce n'est pas à tout le monde. Jésus ne sera pas l'auteur du salut éternel pour n'importe qui, mais pour ceux qui lui obéissent, c'est lui l'auteur du salut éternel. Or, l'auteur veut dire qu'il est l'autorité que nous devons écouter. Si Dieu a parlé autrefois par les prophètes et par les hommes saints de l'Ancien Testament, il lui parle aujourd'hui par qui? Par son Fils. Et nous devons écouter donc le Fils de Dieu qui est l'auteur du salut éternel. Et puis c'est Jésus-Christ lui-même qui a fixé les conditions suivant lesquelles nous sommes sauvés. Sauvés du péché et sauvés pour la vie éternelle. En 1er chapitre, Timothée chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est notre espérance. Il est notre espérance, et ce n'est qu'en lui que nous avons l'espoir, un jour, de vivre avec Dieu, comme c'est en lui que nous devons aujourd'hui être réconciliés avec Dieu. Donc Jésus a fixé lui-même les conditions, les termes suivant lesquels nous devons jouir du salut et de cette espérance dont nous parlons ce soir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est par Jésus et Jésus-Christ seul. Et l'apôtre Pierre, en Actes chapitre 4, verset 10, en parlant au conseiller à Jérusalem qui le passait en procès, leur disait, il n'y a pas de salut en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est seulement par le nom et par l'autorité de Jésus-Christ. Or, Jésus nous a parlé, Jésus nous a montré le chemin. Lorsque Jésus dit en Marc, chapitre 16, au verset 15 et 16 à ses disciples, « Allez par tout le monde, annoncez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, évidemment, il sera condamné. Mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas ceux de cette assemblée qui le disent. C'est Jésus qui le dit. Et nous devons écouter les paroles de Jésus, ou sinon nous n'avons aucune promesse du salut. Et puis, celui qui a parlé au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre. Il avait prêché que Jésus, celui qu'ils avaient mis à mort, était ressuscité, qu'il était élevé à la gloire, qu'il était à la droite de Dieu, Il avait envoyé le Saint-Esprit, comme ils voyaient, comme ils entendaient. Et lorsqu'ils avaient entendu ce message, ils ont été coupés jusqu'au fond du cœur, percés par la conviction qu'ils avaient mis à mort celui qu'ils attendaient, le Messie, le Fils de Dieu. Alors, désespérément, ils crient un frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit ce qu'ils devaient faire. Et ce qu'il leur a dit, acte 2, verset 38, repentez-vous, changez de vie, revenez vers Dieu, soyez réconciliés avec Dieu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez, dit-il, le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit vous sera donné aussi. Et puis il dit, la promesse est à eux, à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, à vous et moi, ce soir. Donc ce n'est pas seulement pour ceux de la Pentecôte, mais c'est pour nous. Jésus nous donne la promesse du pardon et du don du Saint-Esprit si nous nous repentons et si nous sommes baptisés en son nom. Donc voilà les conditions que Jésus a fixées. Et si nous obéissons à sa parole, eh bien nous aurons à partir de ce moment-là cette espérance dont nous venons de parler ce soir. Si nous ne le faisons pas, autant que nous pourrions désirer aller au ciel, être avec Dieu dans l'éternité, cela sera impossible à moins que nous obéissions aux conditions que Jésus lui-même a fixées dans son évangile. Donc, il est important pour nous ce soir de savoir que nous devons obéir aux paroles de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous l'avons écouté, parce que nous le savons. Jésus a dit à ses disciples, après avoir lavé les pieds à ses disciples, il leur dit, maintenant, vous serez heureux si vous mettez ces choses en pratique. Vous les savez, vous serez heureux, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Et nous devons aussi les mettre en pratique, ou sinon, nous n'avons aucune promesse. Donc, nous devons prendre une décision vis-à-vis de ce Jésus qui a été ressuscité d'entre les morts. Envers ce Jésus qui est l'auteur du salut éternel, envers ce Jésus qui lui-même a fixé les conditions pour que nous soyons sauvés. Nous devons prendre une décision. Car nous voulons aller au ciel. Vous voulez aller au ciel. Vous voulez être avec Dieu dans l'éternité. Car nous savons que l'alternative, c'est d'être éternellement séparé de Dieu et séparé de la joie et de la gloire, des rachetés dans le ciel. Et nous voulons surtout pas ça. Donc, ce soir, je vous exhorte, je plaide auprès de vous de ne pas rejeter la parole. D'ailleurs, vous allez faire, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, vous allez faire ce soir une décision. Vous allez décider ce soir, je n'accepte pas. Je vais attendre, ou bien je n'accepte pas. Mais ce sera une décision que vous allez faire. Ou bien, vous déciderez ce soir même, je veux jouir de ce salut éternel. Je veux avoir cette espérance en Jésus-Christ. Je veux un jour être avec Dieu dans l'éternité. Vous allez faire un choix ce soir. Je prie Dieu. Que le choix que vous allez faire sera le choix que vous savez que vous devez faire pour avoir le salut en Jésus-Christ. Réfléchissez beaucoup et avant de quitter cette salle ce soir, faites savoir à un frère ou une sœur, je veux ce soir même m'engager pour obéir au Seigneur, pour être baptisé en Jésus-Christ par la foi que j'ai en lui. Et par un repentir sincère, je veux m'engager avec lui par la mort dans les eaux du baptême pour ressusciter en nouveauté de vie. Est-ce que vous ferez pas ça ce soir? Que Dieu vous aide. Amen.